l'Internet avec Christian Matt et Jeff Drouin.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première édition de 2022 de Dans le carnet, le podcast, avec moi, Jeff Drouin de Fanadien.com et moi-même, Christian Matt de Marqueur.com. Bonne année, Jeff, je te l'ai déjà dit, mais je te le dis de vive voix pour que ça soit enregistré pour toujours.
Ah, t'es gentil. Bonne année également à toi, Chris, pour une seconde fois aussi. Je suis content, on est de retour en 2022. On enregistre le 6 janvier 2022 oui. Après une grosse bombe.
Bien là, il est 14h15. Fait que s'il y a de quoi qui change en journée, vous allez savoir à quelle heure on a commencé. Mais oui, grosse bombe, mercredi, le Canadien qui a réussi un grand chelem, qui a remporté le tournoi des maîtres, qui a remporté la série mondiale en même temps, prend toutes les figures de style que tu veux. Mais quel bon coup, l'arrivée de Chantal Maccabée. Geoff Molson est passé de la parole aux actes.
Incroyable, il l'avait dit, on veut acheter des femmes, on veut avoir de la diversité au sein de l'organigramme du Canadien Montréal, puis embauche la meilleure. Parce que hey, pour moi, tu sais, puis Chris, je veux te le dire, là, pour moi, le ou la meilleure journaliste, je vais mettre tout dans la même boîte parce que moi, il n'y a pas de sexe quand tu fais un métier, là, mais Chantal, c'est la meilleure. Pour moi, c'était la meilleure journaliste au Québec, à mes yeux, à mon goût, à moi, parce que pourquoi? Qui déteste, qui n'aime pas Chantal? Pas personne, personne.
Hey, t'as-tu vu la vague d'amour qu'elle a eue, cette personne-là?
Ça a pas...
C'est incroyable. Là.
Ça n'a pas de bon sens. Puis, comme tu me l'as souligné ce matin, pendant qu'on écrivait nos textes du jour, tu m'as dit, calique, Jeff, Chantal, elle remercie tout le monde sur Twitter. C'est fou. C'est vraie... Exact, un à un, c'est une vraie. C'est une personne franche, authentique. Puis, c'est pas pour rien qu'elle est respectée dans un monde, entre guillemets, d'hommes. Elle a fait sa place depuis plus de 30 ans. Elle est là. Et les joueurs, Chris, là, ils l'aiment et ils la respectent grandement. On a vu des anciens joueurs comme Guillaume Latendresse, Max Lapierre, même Max Pacioretty qui l'a félicité pour son nouveau rôle. Puis souviens-toi, au début de l'année, au début de l'année, Jonathan Drouin, à qui voulait parler pour se confier de ce qui s'était passé, pourquoi il avait quitté l'équipe, c'était Chantal Maccabée. C'était à elle qu'il voulait parler. Puis c'est comme ça pour plusieurs joueurs, ils vont se confier à Chantal. C'est une personne exemplaire. Puis c'est pas juste du fake devant la télé. Chantal est dans la vraie vie comme elle est à la télé. Je peux vous le confirmer, je le sais. Je le sais vraiment pour lui avoir parlé et à côtoyer des gens que moi je côtoyais. C'est une personne extraordinaire. C'est une embauche là, colossale du Canadien. Puis ça va changer, Chris, je te le dis, là, les communications, là, il n'y aura plus grand-chose de nébuleux chez le Canadien. Je peux te dire ça.
Ben, écoute, c'était devenu nébuleux. Ça a changé. Je suis d'accord avec, je pense que c'est Marc-Antoine Godin qui l'écrivait. Le Canadien était devenu extrêmement méfiant avec ses communications quand Piqué-Souben a été échangé. C'est depuis ce temps-là que vraiment on a senti un resserrement puis un éloignement aussi de la base des partisans. Fait que ça, là, il a mis le doigt là-dessus. Là, j'ai trouvé ça très, 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 très bon de sa part. Excellente embauche, une femme aimée. Elle aurait annoncé qu'elle se présentait première ministre du Canada. Écoute, oublie ça, tout le monde aurait été heureux. C'est vraiment le choix. Geoff Molson a vraiment été pile-poil avec France-Margaret Bélanger, parce qu'elle était impliquée là-dedans.
Oui.
Ils ont été pile-poil avec la meilleure personne possible pour changer leur image. On va commencer à voir des joueurs exprimer leur personnalité chez le Canadien. On va voir un peu plus de lousse, plus de transparence jusqu'à un certain point aussi. Parce que, tu sais, on ne saura pas plus nécessairement à quoi que Carey Price, c'est quoi la substance qui était accro, pourquoi il a fait une désintox.
Puis c'est pas ça.
C'est pas ça qu'on demande.
Exact, c'est pas ça qu'on veut savoir, mais on veut quand même une mise à jour sur Carey Price.
Je pense sur son genou.
Oui, oui, exact. Sur son genou, sur comment il va, sur la suite des choses dans le processus de Carey, vers quand on va le revoir, on va-tu le revoir cette année? Tu sais, des choses comme ça. Moi, je m'en fous là, de la consommation, honnêtement, ça, je m'en fous. Mais ouais. Je veux des détails. Puis la même chose pour chez Weber. Je veux savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est épineux. C'est le capitaine du club, Chris, qui a preuve du contraire. Il n'est pas à retraite, mais Drouin avait dit, on sait tout qu'il est à la retraite. On veut savoir. J'haïs ça, ces cachettes-là. Pourquoi cacher ça, sincèrement?
Weber, OK. Weber, j'ai mon explication. Je vais revenir sur Price. Price, s'il veut dévoiler, c'était sur quoi son problème de consommation. Il faut que ça vienne de lui.
Exact.
Et tant mieux s'il le fait parce que lui est à l'aise. OK? Mais on va revenir à Carey Price tantôt. OK? Chez Weber, moi, je vais te le dire pourquoi il est caché présentement. C'est simple. Au début de la saison, rappelle-toi, Jeff, quand Pierre Lebrun a dévoilé que la Ligue nationale a accepté que Shea Weber aille sur la liste des blessés à long terme pour l'instant. Rappelle-toi de ces trois mots-là, pour l'instant. OK? Fait que ça, ce que ça voulait dire, c'est OK, oui, là, présentement, c'est vrai, il est magané et tout ça. La Ligue nationale, là, ce qu'ils voulaient faire avec ça, c'est éviter que Weber passe la saison sur la liste des blessés à long terme, puis que tout à coup, rendu aux séries, si le Canadien y est, qui arrive en pleine forme et qui arrive pour faire les séries, comme ça a été le cas avec Kucherov l'année passée. Okay? Ils ne veulent pas une répétition de ça parce qu'ils savent que ça passait limite auprès de certains. OK? Fait que là, si tu amènes un Weber devant les caméras, il faut que tu aies un discours qui est vraiment rodé, pas à peu près, pour pas que la Ligue nationale te revienne par en arrière puis qu'elle dise « Hey, OK, ça a été amené là de même. Oh, ça a été dit de même. On veut avoir des mises à jour médicales. On veut ça, on veut ça. On va, oups, finalement, on va te l'enlever de la liste des blessés long terme. » Tu comprends? C'est là l'affaire.
Je comprends, mais avec Chantal, sont entre de bonnes mains pour faire une sortie médiatique.
Tout à fait.
Ramenant un peu le monde, comment je pourrais dire, là, au sujet de chez Weber, là, ramener le monde à l'ordre un peu. Parce que là, tu sais, on s'emballe un peu avec des spéculations, Chris. Tu sais, c'est une retraite déguisée, on va-tu le transiger à Nashville pour pas qu'il y ait de pénalités? Tu sais, il y a plein de choses comme ça, c'est nébuleux. Puis au sein du groupe du Canadien, des joueurs, ça prend un capitaine qui est là, qui est présent, qui prend le flambeau, là, puis qui le tient bien haut, qui dit « Suivez-moi les boys, on y va ». Là, oui. On n'a pas tout ça, là, puis c'est à cause de la situation Weber.
Entre autres, oui, en effet. Puis là, il y a un de mes chums qui me parlait de ça dernièrement, puis qui me disait « Ouais, mais Marianne a ça, il n'a pas parlé aux journalistes. » Non, en effet, mais il n'avait pas été mis sur la liste des blessés à long terme, à ma connaissance. Puis il a parlé de retraite, lui. Tu sais, lui, c'était « je ne rejouerai plus ». Tu sais, fait que la nuance est différente. Tu sais, là, il y a une aura de mystère, comme tu dis, il y a du brouillard autour de ça, là. Puis il va falloir dissiper celui autour de Carey Price. Tu l'as bien nommé tantôt. Quand est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient? Comment va son genou? Tu sais, Dominique Ducharme, il a donné la mise à jour qu'il pouvait donner, puis c'est correct, tu sais, à un moment donné. Mais, tu sais, c'est parce que présentement, ça paraît mal. Il n'y a plus de Jeux olympiques, puis on n'a plus de mise à jour sur l'état de santé de Price. Fait que les gens qui anti-Price, parce qu'il y en a une gang encore, bien là, ils se font les choux gras avec ça. Ouais, bien finalement, il ne veut plus revenir, il n'y a plus de Jeux olympiques. Hey, finalement, c'est plus urgent, il n'y a plus de Jeux olympiques. Tu sais, mettre les choses au clair, ça se peut que son genou aille pas bien encore. Ça se peut, tu sais. Ou ça se peut qu'il ait besoin de deux semaines encore.
Mais oui, exact. Moi, je veux une... Ben, garde, je veux une mise à jour sur son genou. That's it. C'est quoi maintenant, à partir d'aujourd'hui, combien de temps environ? De 2 à 4 semaines? De 4 à 6 semaines? Tu sais, je veux quelque chose de concret. Il veut-tu revenir cette année? Tu sais...
Ça, je suis sûr que oui, il veut revenir cette année, puis le Canadien va vouloir qu'il revienne cette année. Ils vont vouloir qu'il prenne des départs, parce que c'est simple. Si le plan, c'est une reconstruction, comme on le pense, bien, il faut que tu le montres un peu. Tu n'as pas le choix.
Sinon, pas mal.
Bien, il faut que tu montres qu'il est capable de jouer. Si tu n'es pas capable de montrer ça, Ben, il y a un doute qui s'installe. Le dossier médical, c'est bien beau, mais dans le game, c'est quoi qui se passe? Tu n'as pas le choix. Cette année, Carey Price va vouloir revenir, puis je suis convaincu que le Canadien veut la même chose aussi. La question là-dedans, c'est quand?
Exact. C'est quand, puis comme tu l'as dit, mettons tu veux l'échanger à Edmonton, là. Faut qu'il joue. Ouais. Faut qu'il montre qu'il est capable de jouer, parce que, tu sais, moi, je regarde ça. Edmonton cherche un goaler. Ils ont établi une liste, puis Jake Allen, Carey Price sont dessus. Si Price ne revient pas, Jake Allen peut devenir intéressant pour les Oilers, parce que Price, il faut qu'il démontre qu'il est en bonne santé s'il veut être transigé pour aller gagner le championnat qu'il veut tant gagner.
Ben, tu sais-tu quoi? On parle de ça, là. Mais Price, là, je ne suis pas sûr, moi, qu'il ait échangé durant cette saison. Tu sais, à cause de son genou, à cause qu'il faut qu'il revienne, puis tout ça. Puis, parce que des contrats comme le sien, c'est plus facile à échanger pendant l'été, OK? En temps normal, on ne sait jamais, là, tu sais. Moi, je pense que les Oilers, là, le gardien qu'ils vont aller chercher, c'est Marc-André Fleury.
Il coûte un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix.
Il coûte un peu moins cher que Price. Il est supérieur à Jake Allen. Fait que moi, je pense que les Oilers, c'est Marc-André Fleury qui vont aller chercher. Carey Price, s'il est échangé, moi, je crois plus à l'Avalanche.
Ben, encore là, c'est des spéculations.
On spécule.
On spécule, mais l'Avalanche pourrait aussi se tourner vers Marc-André Fleury. T'sais, on jase pour jaser. C'est des gars, des vétérans. Surtout Fleury a gagné à maintes et maintes reprises. Oui. C'est un guerrier, on le voit depuis des années. Fait que ça, lui, là, lui, des équipes comme l'Avalanche, les Oilers, vont vouloir tenter de l'acquérir parce qu'il pourrait faire une différence avec ces équipes-là. Là. Ils n'ont pas de grands gardiens. Tu regardes une ou l'autre des équipes, c'est le question mark chaque côté.
Ouais, parce que Darcy Kuemper, il est bon, mais il est fragile.
C'est ça.
Pavel Francouz, ben écoute, c'est un habitué de l'infirmerie. Ça reste à voir de ce côté-là. Fait que Price, on a besoin de ça. Mais avant Price, tabarouette que la COVID a fait ses forts à Montréal. Écoute, j'ai jamais vu le match contre les Panthers, là, le samedi passé.
Oui,
là.
Oui.
As-tu déjà vu une équipe aussi décimée que ça?
Jamais.
Rouler de la glace dans la Ligue nationale de hockey?
Jamais.
J'ai jamais vu ça.
Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu avais, ben là, je pense, tu as 22 personnes du Canadien, 20 joueurs puis 2 membres du personnel qui sont sur la COVID. J'ai jamais vu ça, Chris. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis les raisons pour lesquelles le Canadien a joué ce match-là, c'est la Ligue nationale qui l'a décidé parce qu'on ne veut pas remettre trop de matchs. Puis après ça, on se disait, on joue ce match-là, on a une longue pause pour aller se reposer. Mais pendant cette longue pause-là, il y a encore des cas de COVID qui s'ajoutent.
Bien, puis il y a une autre affaire aussi là-dedans. Tu sais, le Canadien est déjà en Floride, fait que c'est maudit de l'annuler. Pour une fois, c'est un match qui vend beaucoup de billets avec les Panthers, fait que c'est plate de l'annuler. Ça, on s'entend. Surtout dans la pause des fêtes. Mais tu sais, si le Canadien avait insisté là, pour annuler le match, tu sais comme moi qu'il aurait été reporté. Là. Dans les fêtes, là, le Canadien, pour lui, c'est un 2 points perdus gratuitement au classement pour un bon choix. On sait tous que la saison du Canadien est finie, entre guillemets, pour ce qui est de la course aux séries. Fait que pour eux autres, là, c'est un 2 points perdus facile pour rattraper les Coyotes dans le bas du classement puis avoir une chance sur 4 d'avoir le premier choix au lieu d'avoir une chance sur 5. Tu sais, c'est carrément ça, là.
Ben, c'est sûr que vu de même, je peux pas dire que tu n'as pas raison, Chris.
Non, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, il faut être logique là-dedans. Tu sais, les Stars, il y avait 3 fois moins de cas de COVID que le Canadien, puis ils ont fait annuler un match. Mais eux autres sont encore dans la course aux séries, fait que c'était facile de le dire. Il manquait de ressources aussi pour faire des rappels, mais c'était moins pire que le Canadien, pareil, leur situation, là. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça la game. Tu sais, c'est vraiment, c'était facile de faire le match pareil. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ben, ça fait partie de la game. Le positif dans tout ça, c'est que on a pu voir des joueurs se comporter face à des pros dans la Ligue nationale. On parle d'un Jesse Lonen qui démontre des belles aptitudes offensives. On parle d'un Raphaël Harvey-Pinard qui s'est attiré les louanges de tout le monde, Jonathan Drouin en premier. On parle, écoute, tu sais, Corey Schoeneman, là, je ne l'ai pas trouvé si en dehors de sa game que ça. Je l'ai préféré. Hey! Je l'ai préféré à Sammy Nico, moi.
Il est bon. Il est bon. Oui, OK. Le premier match a été difficile. Il reste dans ses moyens. Il a travaillé les lacunes qu'il avait. Ses entraîneurs lui avaient demandé. On a travaillé ça. Puis c'est pas pour rien. Lui, il est arrivé avec le Canadien en juillet 2020, Chris, avec un contrat de la Ligue américaine. Ouais. Puis un an plus tard, Scott Mellenby dit « Hey, faut le signer à deux volets, LNH puis Ligue américaine. » C'est ce que Bergevin a fait. Parce que le gars, il a du upside. Il n'a jamais été drafté, mais il était bon offensivement avec deux lacunes principales qu'on a corrigées ou qu'on est en train de corriger. Fait que je trouve que c'est un joueur intéressant. J'ai été surpris.
Ben oui, c'est ça. On a pu voir Kamelis qui a commencé la saison avec les Lions de Trois-Rivières dans la ECHL. Puis finalement, il a joué son premier match dans la Ligue nationale. Peut-être le seul. On ne sait pas.
Il l'a joué.
Mais il l'a joué. T'sais? Puis il a même eu du temps en powerplay. Puis il n'en avait jamais joué. Il n'avait jamais joué en powerplay avec le Rocket de Laval seulement. Fait qu'imagine. Fait qu'il en a eu du temps. Fait que ça, c'est le fun. Parce que ça permet à Jeff Gorton de voir qu'est-ce qu'il y a sous la main avec cette gang-là. Puis c'est correct, ça aussi. T'sais? Dans le contexte qu'il y a là. Harvey Pinard, là, il a démontré qu'il va appartenir à la Ligue nationale un jour.
Harvey Pinard, là, je m'excuse, puis je le sais là, que je ne suis pas objectif là, dans son cas parce que je l'aime d'amour, mais il ne peut pas retourner avec le Rocket.
Tu sais, je veux dire. Il ne peut pas retourner avec le Rocket.
Ça, non, je suis d'accord, mais dans le sens que c'est un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue nationale de hockey, on l'a vu. On l'a vu. Il est très, 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 très efficace devant le filet. Ça en est incroyable. Puis, tu sais, j'entendais des gens dire c'est un Gallagher en moins bon, mais je ne suis pas si sûr de ça, moi. Je ne suis pas si sûr de ça. Premièrement, Chris, là, son hockey sense est plus élevé que Brendan Gallagher en partant. La vitesse, ça se ressemble. C'est deux petits bonhommes qui travaillent aussi fort l'un que l'autre. Fait que je ne suis pas sûr, moi, que c'est un Gallagher en moins bon. Attendons un petit peu avant de dire c'est quoi au juste. Raphaël Harvey-Pinard, il a juste joué trois games dans le show là, jusqu'ici, là, mais il a quand même un beau potentiel pour jouer avec le Canadien de Montréal à court et moyen terme.
Ben, de toute façon, si le Canadien considérait qu'il était moins qu'un Gallagher, il n'aurait pas fait jouer sur un deuxième trio drette en arrivant. T'sais. Même s'il y avait bien des blessés, ça aurait été facile, Jeff, de dire... Je mets Cédric Paquette à l'aile gauche à la deuxième ligne, c'est un vétéran, puis je mets les jeunes en arrière. T'sais? Ça aurait été facile de faire ça. Ducharme ne l'a pas fait. Fait que, t'sais, puis ça, c'est un indice avec Harvey Pinard à quel point il est vu en très haute estime par le Canadien. T'sais? Fait que ça, là, c'est une très bonne affaire. Fait qu'on a pu voir ces joueurs-là, c'est une belle nouvelle. Je suis content pour Samuel Montembeau. Qui a bien fait dans les circonstances. Tu sais, à un moment donné, il fallait qu'il aille sa chance, ce gars-là. Là, tu sais.
Encore une fois, il a bien. Tu sais, je veux dire, ça en est un des jeunes qui a bien performé. J'ai été surpris, Chris, parce qu'on lui a donné plusieurs matchs en l'absence de Jake Allen. Puis on a vu que la confiance, lorsqu'elle est présente chez Montembeau, c'est un bon gardien de but. C'est un très. Tu sais, je pense qu'il peut tenir son bout. Comme second gardien au sein de la Ligue nationale de hockey, avec ce qu'on a vu.
Tout à fait.
Avec ce qu'on a vu dernièrement, il y a aussi Jesse Ilonen qu'on a effleuré. Hey,
oui.
Sais-tu quoi? Ce joueur-là là, a du talent plein les shorts, Chris. Il patine. Son release est fou. Il a une shot incroyable. Mais sa lacune, c'est Bruno Gervais qui l'a expliqué parce que lui, il suit le Rocket. Il dit pas compliqué, là. Il y a un match, tu le vois sur la glace, tu dis ce gars-là, par rapport dans la Ligue américaine. Là. C'est le meilleur joueur des deux équipes qui s'affrontent, mais le lendemain, il somnole. Il dort un peu, il devient plus timide. Il essaie de faire trop de passes pour gâter ses coéquipiers au lieu de releaser vers le filet, des choses comme ça. Mais waouh, le upside offensif, la vitesse, je l'ai beaucoup aimé lui aussi.
Ben écoute, ce qu'on appelle là dans ce cas-ci, c'est de la maturité dans son cas. Tu sais, c'est des choses à travailler qui se fait au fil de l'expérience. Puis de l'âge.
Ben, ça dépend. Check Joel Armia. Gros oui. talent, mais qui s'endort puis il s'est rendu un vétéran. Là. Je souhaite que ce ne soit pas ça pour Ilonen.
Ah, t'as peu, là. Armia, là, on va faire de quoi, là? On va régler son cas, là.
Non, non, mais il est bon, Chris.
J'ai je veux dire, je dis pas qu'il est pas bon.
Hey, il a des mains, man, ce gars-là. Mm-hmm. Il est fort, il patine quand même bien pour un gars de sa grosseur. Ses grosses fesses devant le filet. Il a tous les atouts pour dominer.
Puis, sa principale qualité qu'on a vue cette année, c'est sa capacité à faire la baboune parce que ça ne fait pas son affaire. Et c'est là le problème. Ce gars-là, le problème, c'est entre les deux oreilles. Il a le talent voulu pour être bon. Il veut avoir un plus gros rôle, mais entre les deux oreilles, il y a de quoi qui fait qu'il ne veut pas faire les efforts pour X, Y raison en fonction de son humeur. C'est carrément ça. On l'a vu au Centre Bell quand il était. C'était ça, sa glace. Quand ça y tente, là, n'importe quand, en série, je le prends, n'importe quand, je l'aime.
Ben, en série, l'année passée, moi aussi, anytime dans mon club, mon gros Joël, mais comme il joue cette année, arc, hey. Là, je trouve qu'on l'a overpayé.
Ben, mais hein?
Si tu te bases aux séries de l'an passé, tu te dis, Colin, c'est bon le contrat qu'on lui a donné. Si tu te fais la saison cette année, c'est de la merde.
C'est ça. Fait que Joël Armia, cette année, la plus belle qualité qu'il nous a montré. Là. Écoute, là, sa blonde à la maison, là, quand il fait à baboune, elle doit trouver ça plate en maudit avec lui.
Ouais, mais hey. C'est pas... ouais, mais Chris, c'est pas le plus bougon du groupe. C'est Jeff Petrie, puis l'art des bougons.
Ouais, je peux y retourner le même compliment aussi. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. OK. On va parler des rumeurs d'échange avec le Canadien parce que ça va s'intensifier. OK? Les joueurs qui sont le plus susceptibles de partir en premier sont Ben Sherratt, s'il veut partir.
Oui, on est d'accord.
Tu as Brett Kulak, qui ne vaut pas grand-chose. Tu as Cédric Paquette, qui ne vaut pas grand-chose non plus.
Ça ne vaut rien, ça vaut rien, ça.
C'est des joueurs interchangeables.
J'aime mieux Kulak. J'aime mieux Kulak que Paquette. Paquette,
ah,
Chris,
moi aussi.
Paquette, qu'est-ce que ça fait dans la Ligue nationale? En tout puis moi, là.
Moi, là, sais-tu quoi? Quand là, tout le monde est en santé, c'est tu sais quoi mon plus beau souhait que je pourrais avoir? Puis ça va m'amener à un jeune qu'on n'a pas parlé. J'aimerais ça qu'on envoie Cédric Paquette avec le Rocket.
Oui.
Ou qu'on le garde comme 13e attaquant, puis qu'on place à sa place Luca Veidemo.
Très d'accord. Je l'ai trouvé meilleur. Je le trouve meilleur que Paquette. Puis
mais oui.
Il est plus discipliné, très efficace en piqué et bon dans les trois zones parce qu'il y a quand même un upside offensif que je trouve meilleur que celui de Paquette.
Ah, ben oui. Ou, ben
tu sais, je veux dire, moi, je le vois dans l'alignement. Exact.
Il peut pas faire pire. C'est ça qu'il faut se dire.
Paquette, sa seule grosse qualité, c'est un Québécois.
Pour l'instant, avec le Canadien, oui.
Oui, exact. Ah, oui, en ce moment, oui. Là, c'est ça.
Ah non, écoute, là, c'est fait que Paquette, mais encore là, c'est un gars de profondeur. Tu dis, je vais l'amener. Puis les DG aiment beaucoup les gars qui ont déjà gagné la Coupe Stanley.
C'est vrai.
Gagné avec le Lightning. Fait qu'un gars comme ça, comme 13e attaquant dans ton vestiaire, pas de problème. Mais on n'aura pas la lune pour ça, là. Un choix de 5e ronde. Quelque chose de même, là, tu sais. Fait que ça, c'est tant mieux. Après ça, il y a Tyler Toffoli, que son nom circule énormément parce que c'est un attaquant qui peut apporter de quoi. Il est polyvalent puis il coûte pas cher.
Mais tu sais...
Pour ce qu'il apporte.
Oui, exactement. Puis Tyler Toffoli, s'il avait eu la même saison que l'an passé, les choses seraient différentes.
Mais ah, ben oui.
T'sais, cette année, il y a une moins bonne saison. Quoique ses statistiques offensives sont quand même pas si mal. C'est la liste des blessés et tout ça. Mais oui, ben, avoir une certaine valeur. Puis ce gars-là est-il en train de bougonner? C'est-tu un des soldats qui n'appuie pas Dominique Ducharme? T'sais, moi, je le mets quasiment dans la même classe que Jeff Petrie. Il a l'air un peu bougon cette année, Toffoli.
Je ne sais pas. Les statistiques, tu as raison, ils montrent de quoi? Tu sais, quand tu regardes ça et tu ne regardes pas les games, tu te dis « Ah, crime, pas si mauvais que ça, sa saison. » Mais quand on le voit, sa patinoire. sais, il y a des fois, là, faut que tu regardes en maudit là, pour savoir qui est là.
Ben, il manque de vigueur, il manque de vouloir, de désir de vaincre en ce moment. Je trouve qu'il est plus nonchalant qu'on a vu l'an passé.
Mais Toffoli, ça a tout le temps été ça. Une saison en feu, une saison plus ordinaire, une saison en feu, une plus ordinaire. Là, on est dans l'ordinaire. Tu sais, fait que,
mais c'est là la différence.
Comme le gardien Craig Anderson.
Oui, oui, exact, parce qu'il était fumant Anderson à certains moments, puis l'année suivante, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, c'est là qu'on voit la différence entre un bon joueur puis un exceptionnel.
C'est ça, exactement. Un bon puis un très bon.
Oui, exactement. T'as-tu déjà vu, là, j'irai pas avec Crosby parce que c'est comme le summum, mais oui, allons-y. As-tu vu Crosby déjà avoir une saison de cul, après ça une bonne saison de cul, après ça une bonne? Ça arrive pas, là. Ces gars-là sont trop dédiés, ils ont trop le désir de vouloir être les meilleurs.
Tout à fait. Tout à fait. Fait que ça, à un moment donné, c'est toutes des petites choses qui paraissent en bout de ligne. Puis, t'as Jake Allen puis Carey Price. Il y en a un des deux qui va rester. Peut-être que les deux vont partir. Mais si les deux partent, tu fais-tu un duo Montembeau-Kaden Primeau?
T'as pas le choix. Ou tu t'en vas avec ta saison, c'est ce qu'il faut que tu fasses.
C'est ça.
Sincèrement, là, je serais pas choqué qu'on échange Allen et Price.
Moi non plus,
oui,
là.
J'aurais de la peine pour Price parce que je l'aime, tout ce qu'il a fait à Montréal, mais je comprendrais la suite des choses, puis ça serait logique. Ben. C'est ça la logique actuellement. Chris, tu veux rebâtir, tu veux refaire une vraie fondation, tu veux pas patcher, mais ces gars-là, malheureusement, devront quitter le Canadien Montréal.
Puis dont Brendan Gallagher, qui peu après le congédiement de Marc Bergevin, a clairement dit qu'il ne veut pas vivre de reconstruction. Fait que ça, à partir de là, ça en fait un autre. Fait que ça va bouger, mais pour bouger là-dessus, visiblement, on attend d'embaucher le DG qui va compléter Jeff Gorton. Puis je dis compléter volontairement, parce que je lis beaucoup sur ça dernièrement, puis tout le monde dit Jeff Gorton, c'est un gars d'équipe. Puis c'est un gars qui délègue. Donc, ce n'est pas un porte-parole francophone, même si je sais très bien que s'il avait été francophone, il serait le seul maître à bord. OK? Mais la direction est là, c'est comme ça avec, il n'y a pas de problème là-dessus. Les discussions...
Non, mais c'est vrai, Chris, que c'est un gars d'équipe, Gorton, puis qui va donner de la place à son directeur général. Je suis d'accord avec ça, mais je suis content que tu aies fini... Mais s'il avait parlé français, il n'y en aurait pas un autre DG.
On sait tout ça.
C'est une donnée importante, pareil. Là. Le gars, il est top qualifié. Là.
Mm-hmm, tout à fait. C'est qui va aller chercher maintenant avec ça? Ça va être le fun de voir. Là, les entrevues ont commencé cette semaine. Probablement mercredi dernier, donc hier, au moment où on enregistre. Là, il y a bien du bruit qui passe autour de ça. Puis là, ça devient comique. Je vais le dire, je trouve ça très drôle. Fait que premièrement, Marc Denis aurait déjà été rencontré, mais lui, en personne, parce qu'il est déjà dans la bulle du Canadien, ça passait. Patrick Roy, tout juste avant qu'on commence à enregistrer, en point de presse avec les Remparts de Québec, s'est fait poser la question là-dessus et il a nié avoir une entrevue avec le Canadien.
Le pire, c'est que je le crée. C'est ça qui est le pire. Je le crée parce que Roy, là...
Il n'y a rien à perdre là-dedans, lui, à dire ça.
Il n'y a rien à perdre. Puis d'habitude, Roy, là, il va dire les affaires comme elles sont sur ces affaires-là.
Moi, je me suis demandé s'il ne voulait juste pas changer le focus de la date limite des transactions puis éviter que la conférence de presse des Remparts en devienne une conférence de presse sur Patrick Roy.
Aussi.
Roy, il n'est pas fou.
Il est intelligent.
Il sait qu'est-ce qu'il se dit sur lui. Et de la façon qu'il a fait là, il a démontré qu'il était capable de rester discret pendant le processus. Parce que c'était ça l'affaire, la critique. Hein? Il s'est réinvité dans la course. Puis c'est correct, je suis extrêmement à l'aise avec ça. Mais il y en a beaucoup qui disent, « Ah, c'est ça, il fait son show. » Il voulait démontrer, probablement, peut-être, on ne sait pas, qu'il est capable de ne pas faire son show. Fait que, tu sais, mais je ne dis pas qu'il a menti, mais je te dis juste ma deuxième opinion là-dessus. Mais il aurait pu très bien dire la vérité. Si c'est le cas, hey, ça va ruer d'un bras encore avec certains fans pour commencer. OK? Fait que là, les entrevues, Patrick Roy, Marc Denis, Mathieu Darche, Daniel Brière, Roberto Luongo, à qui je ne crois pas du tout, Kent Hughes, qui ne va pas passer la première série.
À qui je ne crois pas du tout.
À qui je ne crois pas du tout non plus. Daniel Sauvageau, Émilie Castonguay. J'ai-tu oublié quelqu'un là-dedans, Jeff?
Ça ressemble à ça, Chris. Puis moi, je dois dire, les deux femmes, là, j'y verrai avec les le deux, Canadien.
Les deux s'en viennent avec le Canadien, d'après moi.
Tu sais, puis je ne parle pas d'un rôle de GM, mais je ne sais pas. Assistant GM, tant qu'à y être, tu sais.
Voilà ma prédiction. Puis c'est drôle parce que je suis retombé sur un texte que j'ai écrit en septembre où je disais carrément Daniel Sauvageau est la meilleure relève pour Trevor Timmons. Moi, je pense que Daniel Sauvageau va être amené dans un rôle pour le recrutement amateur, puis aider dans le développement. Puis Émilie Castonguay, avec ses compétences en administration, puis tout ça, puis sa connaissance au hockey, va être l'adjointe au nouveau DG. Je suis convaincu de mon coup là-dessus.
Ben, moi, en tout cas, je suis pas mal en harmonie avec toi, Chris, au sujet des postes que pourraient avoir ces deux femmes-là. Mais je les vois vraiment dans l'organigramme, là, parce que moi, Daniel Sauvageau, j'adore l'écouter parler. Elle est très, très, très connaissante. Puis je suis persuadé qu'elle ferait un boulot colossal avec le Canadien de Montréal. Là. Puis,
à toute faite.
Exactement. Puis c'est une femme qui est droite, qui est authentique, qui est franche. Moi, c'est le type de personne qui m'attire pour vrai dans une équipe. Là. Tu veux avoir ça autour de toi, ces gens-là. C'est des gagnants. Le gagné, Daniel Sauvageau, tu veux ça autour de toi. Puis, tu sais, c'est comme Chantal Maccabée. À sa façon, c'est une gagnante. Elle s'est levée au plus haut niveau dans un monde d'hommes. J'aime pas ça dire dans un monde d'hommes, mais c'est elle-même.
C'est ça, pareil.
Exact. Elle s'est élevée au sommet. C'était la meilleure de sa profession. Donc, moi, là, amenez-en des gagnants ou des gagnantes, je vais toutes les prendre.
Eh oui, mais ça, écoute, là, ça vaut la peine. Là. Après ça, de toute façon, puis c'est Tony Marinaro qui a dit ça. Puis j'ai beaucoup aimé la comparaison. Tu as un plafond salarial pour aligner la meilleure équipe sur la glace. Pas de trouble avec ça. Tu n'as pas de plafond salarial pour encadrer tes joueurs. Fait que tu peux embaucher. Si dans les entrevues, il y a 5 personnes qui ressortent du lot, qui sont intéressantes, puis que les 5 sont intéressés dans les rôles qu'on leur offre à s'en venir avec le Canadien, embauche-en 5. Ça vaut la peine, rendu là. Tu sais, t'as pas de plafond salarial pour ce monde-là. Ça vaut la peine. Puis, finalement, la course pour le DG devrait se faire entre Mathieu Darche et Daniel Brière.
Ben, écoute, ça ressemble à ça. Là. Moi, Mathieu Darche, c'est sans dire que je le vois dans ma soupe, c'est un gars que je vois en poste avec le Canadien pour plusieurs raisons. Il a joué avec l'équipe. Il était nommé capitaine du club école à l'époque des Bulldogs. C'était Guy Boucher qui était derrière le banc. Connaît la game à Montréal. C'est un Québécois. Lui ici, c'est un gars qui est apprécié. Il est bien articulé. Il a appris du meilleur. Le meilleur étant Julien Brisebois. Pour moi, c'est le meilleur directeur général de la Ligue. Fait que j'ai de la misère.
Deuxième meilleur.
En tout cas, top 3.
Derrière son mentor, Steve Yzerman.
Oui, ça peut s'équivaloir, mais peu importe. Moi, c'est lui que je vois comme directeur général du Canadien Montréal. Sincèrement, là, c'est lui que je vois là.
On a oublié Stéphane Quintal. Je cherchais le dernier.
T'as raison.
Okay? Moi, Stéphane Quintal, je ne suis pas sûr. Moi, je vais te le dire pourquoi je ne suis pas sûr. En fait, j'ai été surpris de lire son nom parce que lui-même, au 91-9 Sport, à Martin Lemay, il a dit lui-même, Stéphane Quintal, ou à Louis-Philippe Guy, trop de mémoire, mais je sais que c'est à radio, il a dit lui-même qu'il ne se voyait pas devenir DG parce que c'est un poste qui demande certaines compétences. Cela dit, tout le monde, peu importe qui va être pris, il n'a jamais été DG, fait que ça élimine cet argument-là. Mais j'ai été surpris d'entendre le nom de Stéphane Quintal là-dedans. Roberto Luongo, parenthèse, je ne le crois pas parce qu'il est trop attaché à Floride. Okay?
C'est un bon point. Tu sais, pour Luongo, Chris, c'est un excellent point parce qu'il ne faut pas oublier, il a voulu sacrer son camp de Vancouver pour tourner en Floride. Tu sais, fait qu'il va-tu faire Floride-Montréal? Non. Il est bien, lui, il aime ça rester en Floride.
Sa femme vient de là, sa famille est établie là. Fait que j'y crois pas. Et Kent Hughes, il a plus à perdre qu'à gagner de devenir DG, à mon avis. Fait que Mathieu Darche, il s'en vient. Je suis très à l'aise avec ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon feeling continue de croire que c'est Daniel Brière qui va l'avoir à la job.
Puis, pourquoi que ton feeling t'a dit ça?
Parce que lui aussi a gradué dans les échelons dans l'administration du hockey, dans la ECHL. Il est impliqué avec les Flyers dans le développement des joueurs. Puis c'est ce genre de profil-là qui va compléter Jeff Gorton. Beaucoup, beaucoup. Darche a un profil plus affaires qui est intéressant. Mais j'ai un feeling que Brière, à cause de son parcours dans ça, va se démarquer du lot à la fin. Mais c'est une question de feeling. Je peux me tromper n'importe quand.
Bien, on peut tous se tromper. Moi, je peux me tromper en disant que mon feeling me dit que c'est Darche. Mais tu as raison pour Brière, très qualifié également, bien articulé, connaît bien la game. Il a aussi été de passage à Montréal. Ça ne s'est pas bien terminé, mais ce n'est pas grave. Là. Les gens qui étaient en poste à ce moment-là ne sont plus là. Fait que, oui, je pense que c'est les deux candidats top on the list.
Puis Marc Denis, je n'ai pas de bons commentaires sur lui. On en a parlé tantôt. J'aimerais ça qu'il se distingue. OK? J'aimerais ça qu'il se distingue. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai un autre. Lui aussi, là, ça se peut qu'il s'amène avec le Canadien, mais dans un autre rôle. Ça, ben ça ne me surprendrait pas.
Là, tu viens de comme. On dirait que j'avais comme tassé Marc Denis de mon encéphale. Mais je m'excuse, je me reprends, efface tout ce que j'ai dit au préalable. Là. Mon candidat numéro un, c'est Marc Denis. Parce que Marc Denis, c'est tout simplement le meilleur de tous les individus qui sont en train de rencontrer en ce moment. Point de vue être humain, point de vue articulé, point de vue connaissance de l'organisation, point de vue connaître les jeunes de la LHJMQ. Tu sais, moi, là, sincèrement, Chris, c'est mon candidat.
Je l'aimerais beaucoup, lui aussi. Vraiment, là. Mais ça va se jouer entre ces trois-là. Parce que je l'avais mentionné au début, puis je l'ai écarté dans la discussion. C'est de ma faute. Ça m'apprendra à me laisser des notes. Mais... mon feeling reste avec Brière, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Mais ce n'est pas grave.
Ben moi, ça a tout changé. C'est con, comme je te dis, mais on a comme omis Marc Denis, puis c'est le meilleur candidat. Fait que moi, c'est lui que je voudrais. Moi, là, je suis le boss du Canadien. Je veux Marc Denis. Je veux Marc Denis parce que je trouve que c'est le meilleur analyste que RDS a eu pour les joutes du Canadien de Montréal.
OK.
En plus de toutes les qualités que j'ai dit tantôt. Oui. Là.
Puis le gars, il a de l'expérience. Là. Puis j'ai lu encore là sur lui beaucoup de choses. Puis ce n'est que des bons mots sur Marc Denis, de la façon qu'il travaille, comment il reste dans son carré de sable aussi, tout ça. Fait que ça, j'ai confiance. Ça va se jouer entre ces trois-là. Ça, on peut mettre une gageure là-dessus. La seule chose qui va changer la game, c'est si Kent Hughes, il décide qu'il veut laisser son côté agent de joueur. On sait qu'il est proche de Jeff Gorton. Il y a des grosses chances que ce soit lui à ce moment-là. Mais je ne penserais pas. Tu sais, quand tu as des gros clients comme Patrice Bergeron et tout ça.
Ça ne te tente pas de quitter ça, hein?
Ben, je ne suis pas sûr. Ça me surprend. Tu sais, tu contrôles toutes tes affaires. Tu as moins de stress avec ça, toi aussi. Tu sais, c'est différent. Puis la transition agent de joueur, DG agent de joueur, il y a Pierre Lacroix qui a réussi. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'agents de joueurs qui ont réussi cette transition-là. Là. Mike Gillis, ça a fini en queue de poisson. Brian Lawton, ça a fini en queue de poisson. Puis je suis pas mal sûr que Kent Hughes pense à ça lui aussi de son bord quand il réfléchit à ça. Là,
Brian Lawton. Tu sais, le gars fait semblant de ne pas comprendre tellement qu'il était mauvais. Hein?
Hey, c'était fou ça. Là, je pense que ça aussi, c'est une transition qui va être difficile pour lui. Là, quand je te dis ça, tu vas me dire, « Ouais, mais Émilie Castonguay, c'est une agente de joueur. Profil différent de ces personnes-là. » Parce que c'est quelqu'un qui a fait sa place autrement et pas depuis une vingtaine d'années dans le métier. Puis, elle a pas commencé comme agent de joueur. Elle a commencé comme stagiaire chez le Canadien de Montréal. C'est pour ça que j'ai confiance avec elle.
Oui, puis c'est ça. Elle a une expérience autre que ça. Puis de toute façon, sa chaise qu'elle aurait, ce serait fort probablement pas dans la chaise de DG. Fait que ça fit, là.
Exactement. Jeff, on prend une pause. Au retour de la pause, on va parler de la catastrophe de l'heure dans la Ligue nationale. Puis je t'ai réservé un top 3, mais j'ai décidé d'être moins vache que toi la dernière fois.
Parfait, Chris, on s'en va tantôt.
Avec Christian Matt et Jeff Drouin.
De retour dans vos oreilles pour parler de hockey. Donc, avant la pause, Jeff, j'ai promis qu'on parlerait de la catastrophe de l'heure dans la Ligue nationale. Ce ne sont pas les Coyotes de l'Arizona.
Les Oilers! Je suis sûr, c'est ça! C'est pour ça que tu portes le gilet de Connor McDavid, mon bataille, comme dirait
non,
mon père.
Non, ça, c'est un hasard. Ben oui, les Oilers. Deux victoires à leurs 13 derniers matchs. Le feu est pris dans la cabane. Dave Tippett qui dit en conférence de presse que son gardien n'a pas été assez bon. Pour dire le lendemain, non, non, vous avez sorti ça du contexte. Tout le monde a vu le point de presse en direct. Tout le monde sait très bien qu'il voulait dire ça. Mikko Koskinen qui va dire... Je ne suis pas si mauvais que ça. De toute façon, il ne se marque pas assez de buts devant moi.
Ouais, j'avais pas à être lancé sous l'autobus par mon coach de cette façon-là. Fait qu'on se renvoie la balle.
C'est de toute beauté. C'est un vrai, de vrai roman savon. Premièrement, les Oilers, comme tout le monde, sont pognés avec un peu de COVID dans le vestiaire et des blessures. Ryan Nugent-Hopkins qui est blessé, ça ne l'aide pas. T'sais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Hein. Mais... Ce qu'on voit là, à Edmonton, dans le fond, là, c'est la même erreur qu'on a déjà vue à Toronto longtemps, puis qu'on pourrait revoir. Puis un peu la même erreur qu'on a vue longtemps à Montréal. C'est que la culture de ton équipe est trop autour de un ou deux joueurs. Hein? Montréal, Weber Price, les deux sont partis. Regarde qu'est-ce que ça fait cette année. Hein? Toronto, Matthews, Marner, Tavares. Si ça ne va pas pour ces trois-là, là, l'équipe est dans le trouble. Là. Il y a Morgan Rielly, je vais être juste. Puis Jack Campbell a une saison digne du trophée Vezina. Chaque c'est différent cette année pour les Maple Leafs. Mais ça a été le problème dans le passé, pareil. Fait que le problème, le feu est pogné dans la cabane en tabouère.
Oui, puis ça ne serait pas surprenant que Dave Tippett soit remercié, limogé à grand coup de pied au cul. Là, parce que,
ouais, non.
Moi, je trouve que c'est toujours ça qu'on fait. On tasse le coach. On n'est pas capable de tasser 23 joueurs, évidemment. On tasse le coach. Mais là, la rumeur de Bouette qui circule, tu l'as vu, j'imagine? Mike Babcock.
Ben,
c'est le body de Ken Holland. Ils ont gagné ensemble. Ils ont travaillé ensemble une décennie. Fait que là, on colle son nom, Babcock. Hey, là, on sort un coach... qui était sacré de voir des Leafs et de la Ligue nationale de hockey. Là, façon de parler de la Ligue nationale de hockey avec ce qu'il a fait, les rumeurs qui circulent à son égard. Là, hey, ramener ça, là, c'est comme ramener un vieux dinosaure enterré depuis des millions d'années. Là.
Ben, premièrement, je vais te dire une chose. OK? Soyons francs. Si Bruce Boudreau a été ressorti, Mike Babcock peut l'être. OK? Ça, c'est la première affaire. De deux, c'est toujours mieux qu'à l'époque, le Lightning qui a ramené Barry Melrose puis qui a fait 17 games. T'sais.
Ouais, mais là, avec Griff, ça ne descend pas aussi bas que ça, par exemple. Là. M'excuse. Là, mais...
Je vais te faire réagir. OK, regarde. Babcock, moi, je te le dis. Un, Dave Tippett, je ne pense pas qu'il va se faire crisser dehors. OK, puis je vais le dire en bon québécois, je ne pense pas qu'il va se faire crisser dehors. Il va vivre et mourir avec lui. Puis je pense que au nombre de coachs qui ont passé derrière le banc des Oilers, Ken Holland va faire sa job puis aller chercher des renforts.
Tu sais, il est bon, Tippett, là. C'est un excellent entraîneur. Moi, c'est pas ça que je vraiment doute. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu veux bouger les choses, c'est toujours le coach qu'on tasse. Mais tu sais, si on analyse ça comme ça, là, Chris, là,
mm-hmm.
Moi, je vais toujours me souvenir de Guy Boucher. À un moment donné, il a dit quelque chose en ondes. Je me souviens plus quand, là, l'année passée ou là, 2 ans, peu importe. Ça prend un top goaler. Ça te prend un vrai général puis un top 4 défensif solide. Puis ça te prend 2 premiers centres de haut niveau pour gagner. Est-ce que les Oilers ont ces éléments-là, Chris?
Ben, pas en tout.
Ben, tu sais, fait qu'à un moment donné, oui, t'as McDavid, oui, t'as Dreisaitl, mais t'as pas de top 4 puis t'as pas de goaler. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, oubliez ça, là, peu importe le coach qui est en arrière du banc. Là.
Pas juste ça, OK? Tu sais, t'as Oscar Clefbaum qui est pas là pour l'année, mais c'est pas un top défenseur, mais il est bon pareil.
Ben oui, exact. Il fait, oui, il est très bon, mais c'est pas un général.
Moi, la seule tentative réellement connue de Ken Holland depuis 2 ans d'aller chercher un goaler, c'est Jacob Markstrom. Puis c'est les Flames qui l'ont eu. À part ça, Mikko Koskinen, c'est la faute à Peter Chiarelli.
Oui.
Il est pogné avec le problème de Peter Chiarelli.
Oui.
Mais je veux dire, ce qu'il a trouvé de mieux à faire pendant l'été, c'est de prolonger Mike Smith pareil. Je l'aime, Mike Smith, là. J'aime comment le gars s'est battu tout au long de sa carrière puis qu'il est encore là. Mais Mike Smith, c'est comme Craig Anderson. C'est pas un modèle de constance.
Non, mais son modèle de constance, je le trouve mieux que Greg Anderson. Il a souvent été reconnu comme un des top 5, là, je recule le 7-8 ans, goaler de la Ligue nationale de hockey. Là, c'est la porcelaine. Lui, c'est Monsieur Porcelaine.
C'est ça. Fait que Ken Holland, là, il va commencer par faire sa job, puis il va faire, à mon avis, ce qu'il ne devrait pas faire pareil. OK? Il va donner un gars comme Xavier Bourgault pour aller chercher un Ben Chiarot ou un Calvin DeHaene. Il va aller chercher un goaler. Il va donner son premier choix au repêchage. Il va patcher. Il va donner ce qui reste de relève pour peut-être faire patate, peut-être que non. T'sais? Mais je suis sûr que c'est ça qui va se passer. Convaincu de ça. Puis pourtant, si j'étais lui, je regarderais la position, le classement, tout ça, puis je ferais Mais s'il ne fait rien, il va se faire crucifier sa place publique. Fait qu'il va bouger, mais je ne suis pas sûr qu'il va faire les bons moves pareil à cause de ça.
C'est fort plausible, Chris, mais ça sera à suivre du côté des Oilers. Mais en terminant au sujet des Oilers, là,
ouais.
le torchon ne fait pas juste brûler, d'après moi.
Et c'est bon, il est calciné.
Tu sais, je t'écoutais parler puis tout ça, puis oui, il a raison, c'est vrai. Fait que tu sais, je me dis, le torchon fait pas juste brûler, là, il est calciné bien raide du côté des Oilers, puis ça date pas juste d'aujourd'hui, ça se poursuit depuis 3 ans. C'est quelle année qu'ils ont fait la deuxième ronde dans les séries, c'est là?
C'est en 2017, je pense,
2018. En tout cas, ça fait quelques années, 3 ou 4
contre
ans.
Contre les Ducks. Les Ducks qui ont perdu.
Mais depuis ce temps-là, oui, exactement. Puis depuis ce temps-là, ça fait pouet-pouet. On n'est pas capable d'accéder aux séries.
Où ils font de peine et de misère.
C'est ça, exact.
T'sais? Mais je trouve ça triste parce que là, il y a un gaspillage des belles années de Connor McDavid et Leon Draisaitl qui se fait présentement.
Ben, c'est du gros gaspillage parce qu'on parle de deux, sinon les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale actuellement. Fait que oui, c'est du gaspillage. On n'a pas su bien les entourer. Oui, OK, on a amené Zach Hyman, je l'aime beaucoup, c'est un guerrier. Tu avais besoin de ça, tu sais, pour au début de l'année, avant la séquence des 2 victoires à leurs 12 derniers matchs, là, l'équipe était rayonnante. Puis wow, Zach Hyman, c'est soudainement devenu un grand dieu. Là. Il a changé tout ça. Puis papa, aujourd'hui, on se rend compte que c'était éphémère.
Hey, écoute, Zach Hyman est un excellent complément. OK? Ils l'ont payé un peu cher. Moi, je continue de croire qu'ils ont bien fait d'aller le chercher parce qu'il n'y en avait pas de joueur de son genre dans l'alignement des Oilers. Le problème, c'est que ça s'est arrêté là. c'est vraiment ça. T'sais. Si Ken Holland avait été chercher un gardien, s'il avait été chercher un défenseur, quelque chose, on aurait vu de quoi de mieux, là, tu sais. Il n'a pas assez bien complété l'équipe. Duncan Keith fait une belle job, mais
il a 37, 38, 39 ans, là. Il y a quoi, en tout cas?
Il manque de viande autour de ça, pareil, même avec son ajout.
Oui, puis c'est parce que c'est plus le Duncan Keith des belles années non plus. Là, oui, c'est correct, tu amènes un gars qui a gagné de l'expérience. Je trouve que c'est un ajout qui est intéressant, mais c'était pas. C'est pas Duncan Keith de 38-39 ans qui vient changer la donne complètement là, à la défensive.
Ah ben non, là, écoute, non, pas du tout là, rendu là. Ça, c'est sûr. Fait que non, écoute, là-dessus, j'ai hâte de voir. Pendant ce temps-là, à Vancouver, sont en train de se replacer dans la course aux séries qui est super
serrée. Bruce Boudreau!
Il y a un effet Bruce Boudreau. Je déteste ce cliché-là, mais calvaire, c'est ça pareil. Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil.
Mais quand tu y penses, ça n'a pas de bon sens. Là.
Écoute, t'es Travis Green, t'es à la maison, tu dis, il y a les mêmes maudits joueurs que moi. Puis ça marche.
Moi, c'est ce que ça m'indique, Chris, au contraire. C'est peut-être pas que Bruce Boudreau est excellent, mais peut-être que Travis Green l'avait plus pantoute avec l'équipe et que son message passait plus.
Exactement. Fait que, bravo aux Canucks. Thatcher Demko a une saison incroyable maintenant. T'sais, mais lui, c'est sûr que si l'équipe en avant de lui ne joue pas, il ne peut pas rien faire. Hein, à un moment donné, on le voit les limites à Montréal aussi. Hein? Fait que, mais Demko a une super saison. Il reste juste Elias Pettersson qui présentement a la COVID. À se replacer. Puis lui, ça vient inquiétant.
T'es inquiet, toi?
Ben, oui, puis je vais te le dire pourquoi. OK? Elias Pettersson, c'est quoi sa plus belle qualité comme joueur?
C'est de shotter.
C'est tirer. Parfait.
Ouais.
Tu sais, Elias Pettersson, là, depuis le début de la saison, je vais te sortir une statistique, là, tu vas faire « Ah, oh, ouais! » Puis quand j'ai vu ça moi-même, je suis resté surpris, OK? Puis je te le dis, là, pour un joueur de son calibre, c'est pas assez, OK? Quand tu regardes ses buts comptés depuis le début de la saison, si je peux juste retrouver la statistique, Elias Pettersson a en tout, il a 6 buts en 34 matchs, puis il a seulement 2 buts à force égale. C'est pas assez, là.
Ben non, c'est pas assez. C'est parce que c'est ton élément offensif principal pour scorer des goals.
Exactement. Donc, la prochaine mission de Bruce Boudreau, c'est vraiment qu'Elias Pettersson retrouve son tir. Puis, étant donné que c'est un attaquant qui est frail, je vais être plate avec ce cliché-là. Mais peut-être que la solution va être de le déplacer du centre à l'aile une bonne fois pour toutes, où ce qu'il n'y aura pas à affronter les meilleurs défenseurs régulièrement, les gros défenseurs de la Ligue nationale. Ça marchait un bout, présentement ça ne marche pas. Moi, je le déplacerai à l'aile pendant un bon moment, le temps qu'il retrouve son shot, avant de le ramener au centre.
Mais puis c'est pas fou ce que tu dis, Chris, là. Moi, c'est vraiment la solution que j'emploierais dans le cas d'Elias Pettersson, l'envoyer à l'aile.
Ouais.
Tu sais, pour vrai, là, un type d'ailier un peu à la... Là, je vais aller loin dans ma comparaison, mais à Nikita Kucherov. Tu sais, je veux dire dans le sens que Kucherov aussi, c'est un joueur frail. C'est pas un centre d'origine, mais ça reste que c'est un joueur frail. Puis à l'aile, il utilise son tir à profusion.
Tout à fait. Fait que tu sais, d'après moi, ça va être ça la solution. Mais je suis pas Bruce Boudreau, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer.
Non, puis tu ne ressembles pas, Chris, à Bruce Boudreau.
Ben, on est chauve.
Mais... Ça... Ta face est plus petite.
Ouais, c'est la caméra qui déforme, j'ai mis un filtre. Mais OK. Alex Nylander, qui est rendu avec les Penguins de Pittsburgh contre le joueur de profondeur Sam Lafferty. J'étais surpris que les Blackhawks ne donnent pas de chance à Nylander.
Oui, mais il y a une raison pourquoi il évolue dans la Ligue américaine, puis là, avec le Taxi Squad, puis tout ça, là, il y a une raison. Puis, tu sais, l'année passée, il y a quand même eu...
Il y a eu les blessures.
Oui, il y a les blessures. Puis moi, ce que je trouve bizarre, oui, les blessures, tu l'as dit, mais l'année passée, là, si ma mémoire est bonne, j'ai écrit un texte hier, là, ben, après la transaction, 26 points, 10 buts en 65 games. Crime. C'est pas si pire, là. On sentait quelque chose en Alex Newlander qu'on voyait plus gros que son frère William lorsqu'il était sélectionné par les Sabres de Buffalo au 8e rang. Là.
Ah oui, tout à fait. Fait que belle transaction pour les Pingouins. Moi, je pense que Newlander va se relancer aux côtés de Crosby ou Malkin. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, un gars de ce talent-là, s'il ne réussit pas là, il ne réussira pas ailleurs. T'sais. Moi, ce que je me questionne là-dedans, c'est que les Blackhawks, là, il y a un tour de bord à faire en maudine pareil. De Brincat, ça a marché. Mais tu as Alex Nylander, tu as été cherché pour une transaction, puis tu n'as pas réussi ou tu n'as pas donné le bon push pour pouvoir passer au prochain niveau. Tu as Dylan Strome que tu fais vivoter de la même façon. Puis il y a eu des bonnes saisons, Dylan Strome. Il y a une bonne
Absolument.
Année.
Oui, ben, quand il est arrivé à Chicago, il a performé.
Ben, oui, il y a de quoi qui ne marche pas. Là, Jeremy Colliton n'est plus là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est peut-être une partie de la réponse. Mais quand même, à un moment donné, il va falloir. Là, je vous mets en garde. Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, Jeff est disparu en dessous de son bureau, mort de rire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais pourtant, il n'y a pas la brassière de sa blonde en arrière de lui, c'est pas du ventilateur.
D'habitude, je l'ai, la brassière à ma blonde. Je la laisse accrocher sur son petit bureau, sa longue et haute table de chevet. Je l'ai enlevée. Mais oui. Là, je suis parti à rire parce que.
Qu'est-ce que t'as là?
Le pire, c'est que c'est même pas drôle. Je sais pas pourquoi je ris. C'est que j'ai allumé une page web, puis c'est une radio web.
Cherchais la statistique. Oui.
Oui, puis finalement, je me fous, puis j'appuie sur le logo de la radio web, fait que la musique, elle part au bout. Je ne sais pas si toi, tu l'as entendu.
Pas
je
ne
sais pas si les abonnés, les auditeurs vont l'entendre, mais moi, au bout, dans mes oreilles, fait que je suis comme parti à rire.
Non, moi, je n'ai rien entendu, je te rassure. C'est très drôle.
Okay.
Fait, bref, il y a à se poser des questions avec le développement des joueurs à Chicago. Jeff, la semaine prochaine, là, on va se faire un beau segment complet sur les équipes qui vont devenir acheteuses puis celles qui vont être vendeuses. On va faire de quoi te pousser là-dessus, on va faire le tour là-dessus, puis celles qui vont rester tranquilles. Fait qu'on n'en parle pas pour l'instant, mais c'est sûr que dans la gang, il y en a une qui va aller chercher un Ben Sherrod. Puis c'est sûr qu'il y en a une dans la gang qui va être intéressée à plein de joueurs. T'sais, il y en a là, qui veulent aller loin. Puis les deux équipes qu'on sous-estime dans les acheteurs pour l'instant, les Blues de Saint-Louis et le Wild du Minnesota. Mais on en reparle la semaine prochaine.
OK, mon teaser.
OK. Donc, avant de passer au top 3 pour closer la semaine, les Jeux olympiques, sais-tu qu'est-ce que j'aime dans la situation actuelle? C'est que les...
Oui, je le sais. Oui, je le sais.
Des pays comme le Canada et les États-Unis... M'excuse, t'as trop hésité.
Non, t'es content d'avoir la chance de peut-être voir Eric Staal au sein de Team Canada.
OK, parfait, je vais continuer. Fait que c'est que les joueurs d'âge junior qui n'ont pas de contrat de la Ligue nationale de hockey sont considérés pour aller aux Jeux olympiques. On parle de gars comme Jake Sanderson, Thomas Bordeleau, des gars comme Owen Power. Je trouve ça super. Matthew Beniers, donc je trouve ça écœurant que ces dirigeants d'équipe olympique-là aillent en dehors de la boîte et aillent chercher des joueurs comme ça pour les Jeux olympiques au lieu de se rabattre sur des joueurs vétérans, mais un peu moins talentueux. Ça va rendre le tournoi olympique intéressant.
Ben, je suis d'accord avec toi, Chris, parce que c'est les jeunes qu'on aime voir, hein? Tu sais, je veux dire, Star, je l'ai aimé, mais je m'en fous qu'il soit là ou non, là, dans le fond. Là, mais moi, c'est les jeunes. C'est ça que je veux regarder. Puis je souhaite que ça soit ça. Parce que là, les joueurs de la Ligue nationale, ils sont pas. C'est décevant pour l'amateur. Mais si on peut rendre ça intéressant maintenant, ces jeunes-là, là, je pense qu'il va y avoir de bonnes cotes d'écoute. Le Canada va avoir une bonne équipe. Les jeunes vont prendre en expérience. Là, c'est de la grosse expérience que tu vas aller chercher là, aux Olympiques comme ça. Fait que moi, là, j'aimerais ça en maudit.
C'est plate pour des gars comme Cole Perfetti, comme Caden Goulet qui aurait pu être là. Mais regarde, tant mieux, au moins ces joueurs-là vont être là. Puis avant de passer au top 3, dans le peu du championnat mondial junior qu'on a vu, on l'a-tu aimé, Connor Bédard?
Ah, puis moi, là, quand j'ai lu des commentaires au sujet de sa taille, 5 pieds 9, là, on se
prochain
disait...
Cole Caulfield.
Ben, tu sais, non, mais je veux dire, il y en a qui ont dit « Ah, je suis pas sûr qu'il va être un joueur générationnel puis un joueur de franchise dans la Ligue nationale. Come on,
à cause de sa taille.
Hey, come on, là, je m'excuse, là, mais Patrick Kane, c'est un joueur générationnel puis il est gros comme un pou. Là. Nikita Kuchera, c'est un joueur générationnel, il est gros comme un pou. Fait que là, à un moment donné, là, qu'on se calme-tu, là, que ce soit 5 et 9 ou 5 et 10, là.
Pas juste ça. Il a 16 ans. Il va grandir encore un peu.
Aussi.
Il va pogner du muscle.
Exactement ça. Ça, je me souviens. Je me souviens que je me faisais questionner à l'époque. Kuchera, c'est un choix de deux. C'est un choix de deux, puis c'est un des top 5 de la Ligue nationale de hockey depuis des années. C'est un joueur générationnel. Les gens disent pourquoi il était sélectionné en deuxième ronde? Avant Grigorenko, après Grigorenko, après Yakupov, parce qu'il pesait à peu près 140 livres l'année de son repêchage.
Puis, tu sais comme moi, à ce moment-là, il y avait des rapports sur son attitude.
Aussi.
Comme quoi qu'il faut jauger à quel point un joueur peut prendre de la maturité, et ça, c'est pas facile à faire.
Non, effectivement. Puis on l'a vu, c'est pas encore le cas pour Kucherov. Monsieur Bud Light en chess.
Hey, j'avais assez ri quand John Cooper il a dit que son fils de 12 ans était déguisé en Nikita Kucherov, mais celui avec la Bud Light de la finale de la Coupe Stanley.
Sérieux, j'ai tellement ri.
Moi, t'es John Cooper, tu te dis dans ta tête, calvaire, tu me niaises-tu, tu sais?
Sérieux, okay. C'est malade.
J'ai adoré ça. Top 3 de la semaine. Comme je t'ai dit, j'ai décidé d'être fin avec toi, moi.
Ouais.
Pour ceux qui ne se rappellent pas, la dernière fois qu'on a fait un top 3, Jeff a décidé de me demander c'était quoi mon top 3 des 3 plus beaux joueurs de la Ligue nationale. Donc, d'où le commentaire. Moi, je suis fin. Fait que là, je vais te faire sourire. Fait que je vais commencer avec les 3 plus beaux moments de hockey que j'ai vus.
Ah, c'est beau ça comme top 3. Tu vas me permettre de fouiller dans ma grosse mémoire.
Ben, c'est ça. Puis, il n'y a pas d'ordre. Premièrement, il y a la fois que les Huskies ont gagné la Coupe Memorial. Ça, là, ça a été merveilleux. Puis tout juste, entre parenthèses, quand ils ont gagné leur première Coupe du Président contre les Cataractes de Shawinigan en 2016, j'étais dans l'aréna et je me rappellerai toujours que le lendemain matin, à 7 heures, j'animais un déjeuner-conférence et j'avais à peu près 30% de ma voix. Donc, des beaux moments qui ont été vécus là. Deuxième plus beau moment que j'ai vécu, que je me rappelle, Teemu Selänne qui bat le record du meilleur buteur pour une recrue. C'était superbe, c'était incroyable. À ce moment-là, on suivait moins qu'est-ce qui se passait avec les Européens. Il était sorti de nulle part pour beaucoup de gens, mais ça, c'était tout qu'un moment. Mais le plus beau moment que je peux dire, puis je pense que celui-là, on va s'en rappeler, quand Saku Koivu est revenu de son cancer, l'accueil qu'il avait eu là, par les partisans. Là. Tu sais, tu regardes des vidéos encore, là, ça donne des frissons. Fait que c'est mes 3 moments là-dessus.
Calic, tu as des beaux moments. Chris, moi, je vais retourner ça en 2005. Si ma mémoire est bonne, c'est 2005. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui accueillent les Wildcats de Moncton, alors que c'est Corey Crawford devant le filet des Wildcats. Ça a été la plus belle série de ma vie que j'ai vue de mes yeux étant dans une loge. Là, je te le dis, Chris, là, ça a été plus beau que la Coupe du Président, que les deux Coupes du Président, Chris.
Écoute,
je te le dis, là, les baies vitrées shakaient, puis dans la loge, tu sentais le vent qui te poussait dans le dos. Puis dans cette année-là, tu avais un nommé Guillaume Desbiens, qui est pour moi le joueur qui a marqué le plus l'histoire des Huskies, pas par son talent offensif, par sa prestance, par son leadership, par son caractère, parce qu'il représentait tellement bien les Huskies, tout comme Marc-André Bourdon. Là, pour moi, c'est comme les deux icônes chez les Huskies. Ben, Desbiens, c'était fou de le voir aller contre un certain Nathan Saunders, qui était drafté par les Ducks Anaheim là, en 2003-2004, qui était défenseur des Wildcats, l'un des meilleurs défenseurs défensifs et bagarreur du circuit. C'était beau la rivalité entre les deux gars, la rivalité entre les deux clubs, le Crawford qui résonnait parce qu'on tentait de le déconcentrer. Je te le dis, ça, Chris, c'est marqué, puis j'en parle, j'en ai des frissons. J'en parle souvent à mes chums, à du monde, que c'est mon plus beau moment dans l'aréna de Rouyn-Noranda. Dave Keown, I Am Gold, c'était incroyable, mémorable.
Super. Ensuite.
Ensuite de ça, ça s'est passé durant les derniers mois.
OK.
Je vais te dire un nom. Tu vas tout comprendre. J'aurais même pas besoin d'expliquer. Alex Ovechkin.
Oui. Ben oui.
2018, j'en pleurais. J'étais assis sur le bout de mon sofa, les larmes aux yeux, puis pas juste les yeux dans l'eau, les larmes coulaient sur mes joues parce que mon joueur favori ever. Les gens m'ont écœuré avec Ovechkin, avec les comparaisons.
OK, je pensais que c'était Tyler Mott. Okay.
Non, c'est pas Tyler Mott. Alex Ovechkin qui soulève sa coupe en 2018. Puis quand je parle lors des derniers mois, c'est que après ça, là, Ovechkin, là, on a comme arrêté soudainement de comparer à Crosby. Puis on s'est dit, les deux sont bons, sont différents, sont aussi bons. Ils ont autant marqué l'histoire de la Ligue nationale à leur façon. Tu sais, on a arrêté de dire Ovechkin, c'est pas un leader, c'est un ci, c'est un ça. Il n'y a plus personne qui dit ça aujourd'hui parce qu'il a gagné sa coupe puis parce qu'il est en train d'aller rejoindre Wayne Gretzky au sommet des buteurs de l'histoire de la Ligue nationale. Il est quatrième en ce moment. C'est le meilleur buteur au niveau de l'avantage numérique de l'histoire dans le hockey d'aujourd'hui. Mike Bossy l'a souvent dit, ce gars-là, s'il avait joué dans les années 80, ça ferait longtemps que le record à Gretzky serait battu.
Ah oui, tout à fait.
Puis après ça, je te dirais le retour de Sakou Koivu. C'est pas que je veux te le voler, mais ça a été l'un de mes joueurs favoris que le Canadien. C'est l'un des plus grands guerriers que j'ai vu comme individu et comme joueur. Il m'a beaucoup inspiré, puis je vais toujours me souvenir. Dans ce temps-là, j'habitais avec l'un de mes meilleurs chums, Francis Lortie. C'était mon coloc. On avait un gros poster de Koivu dans notre salon de gars. On écoutait toutes les games du Canadien. On trippait sur Koivu. Quand il est revenu, les deux ont broyé. On s'est fait des câlins comme deux amoureux. Là. Tu sais, c'était très émotif. Fait que je ne peux pas le mettre dans mon top 3.
Ça arrive qu'on puisse en prendre des mêmes là, aussi. Là. C'est bien correct. Fait que, tu vois, j'ai été gentil avec toi.
C'est ça. Hein?
Tu ne fais rien pour attendre, mais je ne te dis pas quand. Sur ce, merci à Marc et Pat de HAL Media qui nous font une superbe confiance avec leur site. Et merci aussi et bonne année à eux. Et aussi merci et bonne année à François Munger, notre ninja amossois, qui fait une superbe job avec nos voix de ténor. Et Jeff, je te laisse le mot de la fin.
Ben moi, tu le sais, hein, je remercie toujours nos lecteurs qui nous lisent, peu importe, en si grand nombre, nos abonnés, nos auditeurs qui nous écoutent depuis plusieurs années où on a pris une pause de 18 mois, mais on est de retour dans vos oreilles. Puis, j'en profite, Chris, 2022, pour saluer tous les gens qui m'ont envoyé du caca par Messenger dans les commentaires sous mes textes. Merci d'être là. Je compte sur vous autres aussi en 2022 parce que, vous savez quoi? Vous chiolez, vous m'envoyez promener, mais vous lisez tous nos textes pareils.
C'est vrai ça, tout à fait. Sur ce, bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine.
Salut tout le monde.